L'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes dans les studios de Radio Taf à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées, les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Aujourd'hui, nous allons parler de la renaissance de l'hébreu. Bonjour Michael.
Shalom.
Shalom.
Ben, il faut parler en hébreu.
Absolument.
Donc, pour l'instant, on va faire cette émission en français.
Nous allons commencer comme ça.
Et bientôt, on va la faire en hébreu.
Très, très bientôt.
Très bientôt. Oui, l'hébreu est une langue que tout le monde connaît, une langue qui a plus de 3000 ans, certainement, dont les règles ont évolué. Et tout au long de... On sait que même la grammaire hébraïque n'existait pas au temps de la Bible et qu'elle a été inventée un petit peu après. Donc, c'est une langue qui s'est construite. Mais qui a fini par devenir, un peu comme toutes les langues anciennes, une langue qui était une langue parlée par, disons, les érudits, les rabbins, les gens qui étudiaient la Bible.
C'est-à-dire que les autres personnes ne parlaient pas du tout l'hébreu ?
Ne parlaient pas du tout l'hébreu, ils lisaient l'hébreu, puisque
D'accord.
aussi bien le judéo-arabe, l'ladino que le yiddish étaient également rédigés en caractère hébraïque. Donc, les élèves dans les cheder, dans les yeshivot, dans les écoles, ils savaient lire l'hébreu. Ils savaient parfois même réciter des passages entiers de la Bible ou du Talmud, mais ils ne comprenaient pas forcément toujours ce qui était dit. Ça leur a été traduit par les maîtres qui enseignaient en yiddish, ou en judéo-arabe. Alors, il y a eu un mouvement au cours du 19e siècle qui était, disons, le pendant de ce qu'on a appelé le mouvement des Lumières dans la pensée occidentale. C'est ce qu'on a appelé la Haskalah.
D'accord.
La Haskalah, ça veut dire la culture, on pourrait traduire ça comme ça. Adam Maskil, c'est quelqu'un de cultivé.
D'accord.
On appelait, au XVIIe siècle, on aurait dit un honnête homme ou un gentilhomme. Et un philosophe allemand, juif, qui s'appelait Mendelssohn, a décidé de traduire la Bible en allemand. Bible, encore une fois, la Bible hébraïque en allemand. Il y avait évidemment des Bibles qui avaient été avec l'Ancien et le Nouveau Testament, mais non, la version qui était la nôtre a été traduite en allemand. Cette traduction en allemand, elle a été publiée en 1783. Elle a été publiée, mais en caractère hébraïque. C'est-à-dire, c'était en allemand, mais en caractère hébraïque.
D'accord.
Ce qui permettait aux Juifs de le lire, puisque pas tous lisaient les caractères latins, et donc de lire, en fait, la Bible en allemand, en caractère hébraïque.
D'accord.
Et à travers ce mouvement de la Haskalah, s'est installé un mouvement, je dirais, d'intellectuels, de gens qui ont voulu être non pas seulement des rabbins et des commentateurs de la Bible, mais des intellectuels qui s'inscrivaient dans un mouvement de pensée philosophique du 18e et après du 19e siècle. Et ils ont rédigé des livres qui avaient le but de donner une instruction générale à des juifs, mais en hébreu.
D'accord.
Et donc ces livres ont été... à l'origine d'une revue qui a été publiée à Königsberg. Königsberg, je rappelle que c'est la ville de Kant.
D'accord.
En 1783, on a eu le premier périodique de langue hébraïque. Ça s'appelait Améasef. On pourrait dire ça peut-être en français, le collectionneur.
Mais c'est-à-dire que ça s'adressait vraiment aux érudits. Personne
oui,
d'autre
au départ, aux érudits,
n'était capable de...
Au départ, aux D'accord. érudits, à travers toute l'Europe, qui lisaient au fond des textes, des articles de philosophie générale, de pensée, mais écrit en hébreu. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'hébreu courant comprenait très peu de mots, moins de 10 000 mots, peut-être 8 000 mots.
D'accord.
Et donc, une partie issue de la Bible, mais depuis la Bible, le Talmud, il y avait très peu de mots nouveaux. Donc, on utilisait, au fond, des mots, et alors on faisait, pour composer des mots, on faisait, disons, des coordinations, c'est-à-dire on ajoutait un mot à un autre. Donc,
D'accord.
on faisait ce qu'on appelle... des mots composés.
Par exemple
Par exemple, on pouvait dire, comme il n'y avait pas de mots pour dire un restaurant, on disait « bet ochel », la maison de la nourriture.
D'accord.
Oui. Donc on faisait toutes sortes de rapprochements de ce genre. Cette Haskalah a été, disons, le creuset de nombreux intellectuels qui sont connus, qui ont créé un mouvement qu'on a appelé en Allemagne Wissenschaft des Judentums, c'est-à-dire la science du judaïsme. D'accord. Donc des gens qui avaient une approche du judaïsme, je dirais, plus scientifique au sens large, non pas scientifique au sens moderne, mais disons de considérer le judaïsme comme un objet de recherche, comme un objet de recherche scientifique. Mmh. Et donc ces gens ont commencé, et ils parlaient tous l'allemand, mais ils écrivaient sur des sujets qui étaient principalement la Bible ou le judaïsme, et donc eux-mêmes étaient de parfaits connaisseurs de la langue hébraïque. Mmh. Et donc à partir de ce mouvement, il y a eu quelqu'un qui a écrit un texte fondamental pour la philosophie juive moderne, et que peu de gens connaissent, ce qui s'appelle Nachman Krochmal. Nachman Krochmal est quelqu'un qui a écrit les guides, le guide des égarés de notre temps. Alors ça fait appel à le fameux guide des égarés de Maïmonide, mais justement quand il dit de notre temps, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que, au fond, le guide des juifs dans le monde moderne. Et donc à partir de ce texte de Krochmal, s'est développé tout un mouvement de maskilim yehudim, c'est-à-dire d'intellectuels juifs modernes, et ces gens ont écrit des textes en hébreu.
D'accord.
Et le premier roman, en hébreu moderne, et c'est pour ça que notre émission s'appelle d'ailleurs comme ça, Pour l'amour de Sion, c'est un roman qui s'appelait Pour l'amour de Sion, qui a été écrit par Avraham Mapou en 1853, et il s'était inspiré d'ailleurs des Mystères de Paris de Gensu pour créer son intrigue, écrivait ça un peu comme un feuilleton. Aujourd'hui, c'est au fond l'histoire qui commence dans la Bible, c'est le lien des Juifs avec la terre d'Israël, c'est une histoire presque biblique, mais racontée comme un roman. Et toute cette, c'est comme un roman feuilleton sur la Bible, au fond,
d'Israël. Ça a été le premier vrai roman moderne en hébreu.
Ouais.
D'accord. Toutes les autres choses étaient plutôt des essais.
Moderne, mais pas
encore
de l'hébreu moderne qu'on
absolument
connaît aujourd'hui. C'est un hébreu qui, aujourd'hui, est un petit peu désuet, si on le lit, et je pense que très peu de gens, même en Israël, connaissent ce texte qui est étudié par les chercheurs de la littérature, disons. Mais ce texte a été à l'origine de ce qu'on peut appeler la littérature hébraïque moderne.
D'accord.
Alors après, il y a eu évidemment toutes sortes de journaux, énormément de journaux, qui ont été publiés, surtout en Europe orientale, en Galicie, en Autriche. Mm-hmm. Et ces journaux, ces revues, ont eu pas mal d'abonnés, de gens qui s'intéressaient justement à l'hébreu.
Donc des journaux
et à
en
la
hébreu.
Culture. D'accord. En hébreu, oui, oui. Et donc, il y avait à Shachar, à Chalutz, et donc des gens comme Smolenskin, comme Shor, ont été à l'origine de ces textes, de ces revues. Et même, il y a eu une revue qui est parue en Israël, enfin en Palestine de l'époque, que des juifs religieux ont publié, qui s'appelait Alevanon, le Liban, et qui était édité à Jérusalem,
d'accord,
déjà au milieu du 19e siècle. Alors, même Renan, d'ailleurs, qui évoque la Haskalah juive, évoque l'idée d'une gazette hébraïque, et il dit dans un texte « J'ai sous les yeux le premier numéro d'une gazette hébraïque, écrit dans un style imité en partie de celui des prophètes et imprimé à Jérusalem. » Donc la Haskalah a démontré, si vous voulez, qu'il était possible d'écrire sur le judaïsme, de penser le judaïsme moderne en hébreu aussi, et pas seulement en allemand, ou en anglais, ou dans des langues de l'Europe. Un autre maskil, si on peut dire une expression, de ces intellectuels, c'est Lilian Blum, qui justement a écrit un texte assez intéressant qui s'appelle « La réunion des morts ». Et c'est un pamphlet dans lequel il dit « Je sais que nous n'avons pas de public ». C'est pour ça qu'il appelle ça la réunion des morts. Il dit, au fond, c'est une langue morte. Et il faut que cette littérature ne soit pas seulement un objet de littérature, de recherche, mais qu'il soit aussi, devienne une langue parlée, au fond. Voilà ce qu'il dit. Je sais que nous n'avons pas de public, que la vie pratique agit sans l'aide de la littérature. L'influence de cette dernière ne s'étend qu'à quelques naïfs esprits de province. Et il dit, c'est quelque chose de provincial. Il faut généraliser l'hébreu et donc transformer l'hébreu. Alors effectivement, pour faire ce genre de révolution, il faut quelqu'un.
C'est-à-dire qu'il
faut souvent un homme. On l'a vu sur le sionisme, il faut quelqu'un qui ait, je dirais, l'énergie, à la limite peut-être l'obsession, peut-être plus que ça, l'obstination de vouloir le faire.
Et ce quelqu'un, c'est ?
Je ne sais pas, c'est Ben Yehuda peut-être.
Ben Yehuda, ça me dit quelque chose.
Ça vous dit quelque chose. Hein. Alors, l'ingéniosité, c'est dans la transformation d'une langue, on l'a vu dans beaucoup de langues. Alors, on peut citer des exemples, c'est qu'effectivement, il faut trouver des mots pour chaque chose, pour chaque, je dirais, compartiment de la vie. Et donc, il faut trouver une langue moderne. Alors, Ben Yehuda, c'est quelqu'un qui s'appelait Eliezer Perelman, au départ, qui est né en Lituanie,
d'accord,
en 1858, et qui, justement, faisait partie de ce petit groupe des Maskilim, et qui a été, dès le départ, obsédé par cette volonté de transformer la langue hébraïque, non pas en une langue pour chercheurs, dans une langue de gens qui
pourraient bibliothèque, pour tout le monde,
mais
pour la
voilà, une langue qu'on a, ce qu'on pourrait dire vernaculaire, c'est-à-dire une langue parlée par tous et qui puisse servir à la vie quotidienne. Et donc ça a été sa véritable obsession. Il a décidé lui-même en 1881 de changer son nom de Eliezer Perelman. Il s'appelait Eliezer Ben Yehuda.
D'accord.
Alors l'aventure de Eliezer Ben Yehuda est assez intéressante parce que dans sa vie, il y a quand même des choses intéressantes. La première, c'est qu'effectivement, il a été le premier à parler hébreu, uniquement hébreu avec ses enfants, et même à exiger avec une grande obstination de sa famille de ne parler que l'hébreu, ce qui posait des problèmes puisqu'ils étaient les seuls.
C'est ça.
Et en plus, pourquoi il est arrivé à cette idée qu'il fallait, que c'était possible ? Parce qu'au fond, tout le monde savait que bon, l'hébreu était une langue, que les maskilim parlaient, une langue de recherche, une langue d'étude, et l'hébreu n'allait pas disparaître. Mais qu'est-ce qui l'a convaincu qu'il était possible de faire cette révolution, de faire renaître la langue hébraïque et de la transformer en langue moderne et en langue de vie ?
Alors, avant de répondre à cette question, nous allons faire une petite pause musicale. Et Michael,
il y a du suspense,
hein. Oui, et vous allez nous expliquer après quel est le lien de cette musique et qui est l'auteur et le chanteur de cette musique.
הקנאים לשם, הוא קינא לפועל ולתואר ולשם, ובחצות האששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים אפות מתגלגלות מן הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון הן קומתך כמעט אפיים שחר והעברית אשר חיכתה אלפיים היא תמתין לך עד בוא השחר. אליעזר בן יהודה יהודי לבדיה מילים 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 הוא בדה ממוחו הקודח. נמה העברית אלפיים, נו אז מה? הבה נעירנה ונמציא את היוזמה, את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט. בקצה נוצה בכתב רהוט, כתב כרובית, כתב גלידה, כתב את כל מילון בן יהודה. ועוד הוסיף מילים לברוא ונוצתו המהירה לא נחה, גדלה ולא הכירה את מראה דמותה, את מראה דמותה בבוא השחר. אליעזר בן יהודה יהודי מבדח מילים 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 הוא בדה ממוחו הקודח. ובן נולד לו וחזות האיש אמר, זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר, שמינקות ועד כמילה מיום בואו בברית מילה ועד מותו כרותה לו ברית עם העברית ומלחמה לא את הלעז להחריץ.
jolie chanson. Michael, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de Radio TAF quelle est cette chanson et de quoi parle-t-elle ?
C'est une chanson de Matti Kasbi, grand compositeur israélien, interprétée par Chava Alberstein, qui est une chanteuse qu'on peut comparer, je dirais, à Barbara en France, très très populaire et qui est, je dirais, depuis plusieurs décennies, une chanteuse qui chante des chansons à texte sur Israël, sur le sionisme, et là sur Ben Yehuda et sur sa personnalité, justement son côté un peu, je dirais, compulsif.
Il avait un côté
cette
compulsif.
Obstination à vouloir parler l'hébreu, à vouloir créer des mots, à vouloir et à en faire vraiment une obsession, parce que Ben Yehuda a consacré, je dirais, 30 ans de sa vie uniquement à la renaissance de l'hébreu. Alors pourquoi ça a été possible ? C'était ça, cette question que nous avions posée avant la pause musicale. Eh bien, Ben Yehuda a cru que c'était possible pour deux raisons. La première, ça a été ce qu'il a vu. L'Empire ottoman était en train d'écraser le peuple bulgare. Et les Bulgares se sont défendus, je dirais, ont défendu leur culture et ont réussi à faire renaître la langue bulgare, qui était écrite en caractère cyrillique, et donc ils étaient sous la coupe, je dirais, de l'Empire ottoman, qui était extrêmement violent, et donc ils ont malgré tout réussi à faire renaître toute cette culture bulgare. Et donc quand il a vu ça, il a dit, si eux peuvent le faire, nous aussi nous pouvons le faire. La deuxième raison, c'est que Ben Yehuda, en 1877, je crois, est parti à Paris, donc il avait fait des études en Lituanie, là où il était né, et il est parti ensuite à Paris pour faire des études de médecine, qu'il n'a pas pu malheureusement terminer parce qu'il est tombé malade, il a attrapé la tuberculose. Mais à Paris, à Montmartre, dans un café, il a rencontré un juif, et comme il n'avait pas de langue commune, ils ont commencé à parler en hébreu, avec les hébreux qu'ils connaissaient tous les deux de la Bible et de leurs études talmudiques. Et donc il s'est dit, si je peux parler l'hébreu avec quelqu'un à Paris à la terrasse d'un café, c'est donc que la renaissance de l'hébreu moderne est possible.
Alors en fait, on passe d'intellectuel qui essaye de parler l'hébreu mais entre intellectuels, et Ben Yehuda qui arrive et qui dit voilà, on peut faire que l'hébreu soit parlé par tout le monde. C'est un peu grâce à lui que ça a été possible.
Bien sûr, beaucoup grâce à lui, mais surtout à cause de ce qu'il a fait. Alors je vais revenir là-dessus, mais quand vous dites parler, en fait ces gens ne se parlaient pas, ils s'écrivaient en hébreu. Il se lisait en hébreu.
C'est ça, c'était pas une langue vivante.
Voilà, c'était pas une langue qu'il parlait quand il se parlait. Ces intellectuels, ils se parlaient en allemand, ils se parlaient en russe, ils se parlaient en polonais, en lituanien, mais même en yiddish, souvent. Mais ils ne parlaient pas vraiment l'hébreu dans la langue courante, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de mots pour parler d'une montre,
de la vie de tous les jours,
billet de train, ou voilà. Tous ces mots de la langue quotidienne n'existaient pas. Et donc, il a décidé de partir s'installer en Palestine. Donc, en 1881, il arrive à Yafo, il s'installe en Palestine, et donc, il va consacrer toute sa vie jusqu'à sa mort, c'est-à-dire en 1922. Donc, de 1881 à 1922, il va consacrer sa vie à la renaissance de l'hébreu. Alors, il va faire trois choses essentielles pour la renaissance de l'hébreu. Trois choses qu'il faut comprendre, mis à part le fait que c'était un véritable tyran et qu'il a imposé à sa femme et ensuite à sa deuxième femme, puisqu'il a épousé la sœur de sa femme qui est décédée entre-temps, il leur a imposé de parler l'hébreu alors qu'elles étaient toutes les deux, elles avaient beaucoup de difficultés avec l'hébreu.
Et à son fils surtout.
Voilà, ses enfants, il leur a imposé de ne parler que l'hébreu. Ils ne voulaient pas entendre d'autres langues. Et les enfants, ils sortaient à l'extérieur, ils venaient avec des mots qu'ils entendaient de l'extérieur, et lui disait, non, il faut parler que l'hébreu.
Et du coup, ils ne pouvaient pas communiquer voilà. avec et les
beaucoup,
autres enfants,
beaucoup
les
de,
autres...
Beaucoup de difficultés pour communiquer, mais je crois que cette obstination a été malgré tout une des raisons de la réussite, je dirais, de cette entreprise Ben Yehuda. Alors, les trois choses essentielles qu'il a faites, les premières, ça a été la création de ce qu'on appelle le comité de la langue hébraïque, en 1890, si je ne me trompe pas. Ce comité avait pour but, justement, de discuter des changements, des évolutions de la langue, et de proposer des mots nouveaux, à partir de, disons, des mots existants. Alors, la deuxième chose, ça a été la méthode Ben Yehuda. La méthode Ben Yehuda, c'est justement d'utiliser les racines hébraïques existantes, et de leur rajouter une autre partie, disons, de les décliner, comme on dit, mais en utilisant parfois d'autres éléments, d'autres langues, mm-hmm. qui peuvent être l'arabe, les D'accord. langues européennes, et donc de trouver finalement des mots nouveaux.
Quand vous parlez de la commission, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes en Palestine à cette époque-là qui avaient la même oui. volonté que Ben Yehuda, qui oui, parlaient oui. également hébreu.
Oui, qui parlaient hébreu parfaitement, mais qui ne parlaient pas l'hébreu dans la langue quotidienne, qui parlaient l'hébreu comme ces intellectuels qui savaient l'hébreu, qui étudiaient en hébreu et qui donc sont entrés dans ce comité de la langue hébraïque. Alors, il faut savoir que dans tous ces comités, les gens sont extrêmement méchants les uns avec les autres. ils se critiquent de façon très très violente. Et donc à chaque fois que chacun proposait un mot, c'était rejeté. Et puis ce comité de la langue hébraïque, curieusement, a évolué. Et aujourd'hui, ça s'appelle l'Académie de la langue hébraïque.
Oui.
Et ils n'ont pas trouvé de mot en hébreu pour dire académie. Ça s'appelle Académie Hachel Alachon Ayurit.
Ça, c'est très drôle.
Ouais. Et alors, la troisième chose qu'il a, donc la deuxième chose, c'était effectivement la méthode, mmh. prendre les racines et trouver dans les langues, l'arabe, l'araméen, parfois dans d'autres textes et des langues européennes aussi, mmh. de trouver, disons, des correspondants. Et voilà, c'était un peu la méthode Ben Yehuda. Cette méthode était critiquée par ces intellectuels qui trouvaient que c'était une façon de banaliser cette langue, de la rendre un peu trop populaire.
C'était sa volonté, de toute façon.
Voilà, c'était sa volonté à lui, mais d'un autre côté, les intellectuels disaient « Ah ben non, ça va abîmer la langue mmh. », puisqu'ils parlaient d'une langue d'une pureté, la langue de la Bible, donc mmh. quelquefois, parler de la Bible pour ensuite parler de choses, disons, banales, profanes, c'était un petit peu difficile pour ces gens-là. Alors c'est très curieux, parce que dans la Bible, il y a un problème avec les couleurs, par exemple. Il n'y avait pas toutes les couleurs. Mmh. Donc c'est pour ça que dans la Bible, toutes les jeunes filles ont des yeux bleus et des cheveux noirs.
Parce que ça explique tout.
Voilà, il y a certaines couleurs qui n'existaient pas dans la langue hébraïque. Donc il a fallu inventer tout ça. La troisième chose qu'il a faite, c'est la rédaction du dictionnaire.
D'accord.
Et ça, d'abord, il a inventé le mot dictionnaire. À partir du mot « mila mmh. », le mot, c'est devenu « milon mmh. ». Et donc, le mot « milon ben Yehuda », c'est aujourd'hui une référence de la culture hébraïque. Et donc, il a inventé un dictionnaire et il s'est mis à rédiger le dictionnaire de la langue hébraïque moderne. Et ce travail, il a pu le faire grâce à l'aide, de beaucoup de gens qui l'ont aidé. Curieusement, évidemment, nous sommes dans la Palestine 1890, mmh. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des maladies, donc il a fallu beaucoup d'énergie. Et lorsque Ben Yehuda avait besoin de vivre, il fallait qu'il soit soutenu financièrement. Et donc il y a quelqu'un que peu de gens connaissent, qui a soutenu financièrement Ben Yehuda toute sa vie.
Et qui
est ? Un monsieur qui s'appelle Fromkin.
D'accord.
Israël Dov Fromkin.
Quelqu'un qui habitait en Palestine ou en Europe ?
Oui, oui, et qui en fait était le qui avait à partir de 1884 créé une revue qui s'appelait Chavatzelet. Chavatzelet, mm-hmm. je crois en français, je crois que c'est Asphodel. C'est le nom de fleur, c'est une
D'accord.
fleur. Et donc, le lys peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas très bon en fleurs. Et donc, Fromkin a dès le départ soutenu Ben Yehuda en le nommant donc rédacteur en chef de cette revue. Et il était l'imprimeur, c'est lui qui finançait l'imprimerie où était imprimé ce journal. Et donc, il a au fond soutenu, le travail de Ben Yehuda pendant toutes ces années. Et donc, il a permis ensuite de publier d'autres journaux. Ça s'appelait Chavatzelet, après ça s'est appelé, je crois, Hatzvi, le cerf, puisque c'est le symbole de Eretz Israël, c'est Eretz Hatzvi, c'est le pays du cerf et des gazelles. Et donc, pendant à peu près 30 ans, il a soutenu Ben Yehuda dans son effort, pratiquement jusqu'à la début de la Première Guerre mondiale, 1914. Évidemment, ce journal permettait à Ben Yehuda de publier des articles sur la Renaissance, le renouveau de la langue hébraïque, et surtout d'exprimer ses idées. Évidemment, Ben Yehuda était sioniste, mm-hmm. il avait des idées, et donc il a utilisé, cette tribune pendant très longtemps, pour publier ses opinions et se faire beaucoup d'ennemis. Puisque c'était quelqu'un qui n'était pas tout à fait dans la modération, comme on l'a compris. C'est quelqu'un qui avait plutôt des opinions assez radicales et qui donc a essayé de s'opposer au régime en place. puisqu'il voulait absolument qu'il crée cet État juif et qu'il était sous la domination turque.
D'accord, pour lui vraiment voilà. Le et renouveau donc, de l'hébreu, c'était aussi pour but aussi de créer une langue pour un futur État.
Bien sûr, c'était l'idée. L'idée était franchement politique.
D'accord.
Et donc, à plusieurs reprises, le journal a été fermé par les Turcs. Et donc, okay. Il avait beaucoup, beaucoup de problèmes avec, non seulement avec ses ennemis au niveau de la langue hébraïque, mais aussi avec les autorités turques et parfois avec ce mécène qui l'aidait, Frumkin, à chaque fois, il lui faisait fermer son journal, il lui faisait perdre de l'argent, etc. Et donc, quelque part, c'est extrêmement intéressant parce que Ben Yehuda n'avait pas peur d'exprimer ses idées. Il a même été arrêté plusieurs fois par les autorités turques qui l'ont interné, justement pour des courtes périodes, mais justement pour, je dirais, on appellerait aujourd'hui un délit d'opinion.
D'accord.
Pour s'être opposé à la façon dont les autorités turques traitaient le Yishuv, c'est-à-dire la société juive qui était en train de s'installer.
Comment se passait cette fameuse rédaction du dictionnaire, lui qui était si absolu? Est-ce qu'il arrivait à collaborer avec d'autres personnes ou il s'en occupait tout seul?
Alors, il s'en occupait relativement tout seul, mais il utilisait évidemment les services d'une excellente secrétaire qui était sa femme.
C'est pratique.
C'est... voilà.
Sa première et sa deuxième femme?
Oui, plutôt sa deuxième, sa première était déjà décédée. Et donc, il l'utilisait, mais il était un tyran. C'était quelqu'un d'extrêmement tyrannique et d'extrêmement exigeant dans sa façon de travailler. Et donc, il a, à plusieurs reprises, eu des tas de problèmes avec cette épouse, justement, parce que elle n'arrivait pas à soutenir le rythme de travail qu'il avait lui, et puis elle ne comprenait pas toujours la façon dont il composait ces nouveaux mots, ces nouvelles expressions en hébreu. Et puis surtout, elle trouvait qu'il était extrêmement dur avec les enfants, et que ses enfants avaient du mal à s'épanouir.
C'est ça.
Et donc justement, on va peut-être entendre une chanson sur le fils de Ben Yehuda qui s'appelait Itamar et Itamar Ben Avi, c'est-à-dire Ben Avi, c'est Eliezer Ben Yehuda. Ce sont les acronymes de Eliezer Ben Yehuda.
Voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale encore une fois.
בעיר ירושלים איש טהור טהור אהוב אהב כאב כאב בזעם וזהו דבר אהבתו עולה בלהבה אשר שמעה נסיכתו לאה האהובה את לאתי אהבתי למרות רצונה מי ייתן יכולתי לסור לי מעונה אני אוהב אותך כל כך אני נושק אותך כל כך לו אהבתיני לאתי חיי לך ומותי לו אהבתיני לאתי חיי לך ומותי והוא אמר לה את שוכנת בלבבי וצר עלי ביתה ותשוקותיה חתם בלהט איתמר הוא בן אבי שלוש שנים בחו בחה אליה ביקש לשים קץ לחייו באקדחו הקר ושר לנחל דמעותיו ושר 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 את לאתי אהבתי למרות רצונה מי ייתן יכולתי לסור לי מעונה אני אוהב אותך כל כך אני נושק אותך כל כך לו אהבתיני לאתי חיי לך ומותי לו אהבתיני לאתי חיי לך ומותי סוגרת ומסוגרת במחבור פחם שיער ראשה צחות פניה נשבע הוא להמית דמותה בלבבו בשבועתו נכשל ושב אליה אי אז מקץ שלוש שנים הלכה היא אחריו מאז לכתו פעמונים נוגנים לה את שירה. את לאתי אהבתי למרות רצונה, מי ייתן יכולתי לסור לי מעונה. אני אוהב אותך כל כך, אני נושק אותך כל כך, לו אהבתי נלאתי חיי לך ומותי, כי אהבתי נלאתי חיי לך ומותי, כי אהבתי נלאתי חיי לך ומותי, כי אהבתי נלאתי חיי לך ומותי.
Très jolie chanson. Michael, de quoi parle cette chanson justement?
Ah bah justement, c'est une chanson très très curieuse. Ça parle d'Itamar Benavis, de l'amour, de les amours de d'Itamar Benavis. Itamar Benavis, c'est Ben Sion, en fait, c'est le fils donc de Ben Yehuda. Mm-hmm. Et ça raconte en fait ses difficultés d'amoureux. Amoureux transi, parce qu'il veut déclarer son amour aux jeunes filles, mais elles ne comprennent pas ce qu'il dit, et seul à parler en hébreu, il leur dit « je t'aime », mais la fille, elle ne comprend pas, la pauvre, et donc elle ne comprend pas ce qu'il dit. Et donc, il souffre beaucoup, justement, d'être le premier, je dirais, le premier hébreu moderne à vouloir déclarer son amour, et au fond, à être très seul dans cette situation.
Et c'est symptomatique un peu de ce qu'ont vécu les enfants, justement, de
Ben Yehuda. Oui, justement, de ce qu'il a vécu en tant que... Enfin, de l'acharnement, je dirais, de son père, qui, au départ, suscitait beaucoup plus de sarcasme que de véritable soutien. Alors, l'hébreu, évidemment, c'était pas un idiome inconnu à Jérusalem. On entendait de l'hébreu, c'est-à-dire que les communautés qui vivaient à Jérusalem, notamment les communautés religieuses et les vieilles communautés séfarades ou même yéménites, l'hébreu était... Il y a des mots hébreux, on en connaissait beaucoup, on entendait de l'hébreu. Mais il fallait trouver... des noms et des termes pour définir, je dirais, des tas de choses de notre vie quotidienne. Et donc, par exemple, je dis qu'il avait inventé le mot dictionnaire, on dit un peu ça milon. Avant, le mot dictionnaire existait, mais on appelait ça sefer milim.
D'accord.
C'est-à-dire le livre des mots. Et donc, il a fait tout ce travail avec quelques amis, notamment quelqu'un dont on connaît un peu le nom, mais dont on ne connaît pas vraiment l'action, je dirais. C'est quelqu'un qui s'appelait Pinès, Yriel Pinès, qui a aussi une rue à Tel Aviv, absolument, comme tout le monde. Mais qui, justement, lui, a aidé beaucoup Ben Yehuda dans ce fameux comité pour la langue hébraïque et dans une association qui s'appelait Safa Broura, une langue claire, si je traduis exactement.
De quelle manière il l'a aidé ?
Alors, ce comité de littérature, je disais, essayait d'inventer des mots, de proposer des mots nouveaux, de les publier, de les proposer, et ensuite de voir la réaction, je dirais, du public sur l'invention de ces nouveaux mots. Alors, quelque part, il fallait donc créer ces mots, les forger à partir d'autres langues. Et donc, on estime qu'au départ, là aussi, il y a un mythe Ben Yehuda. Parce que on dit Ben Yehuda, évidemment, sans Ben Yehuda, il n'y aurait pas eu l'hébreu moderne. Mais combien de mots, d'après vous, il a inventé Ben Yehuda?
J'ai l'impression qu'il a inventé quasiment tous les mots de l'hébreu moderne, non?
Allez, un chiffre.
J'en sais rien. Il y avait 8000 mots, je dirais qu'il en a inventé encore 8000.
Non, 300 à peu près.
Il a inventé que 300 mots?
Oui.
D'accord. Donc en fait, c'est un peu un mythe, Ben Yehuda.
Voilà, c'est aussi un mythe. Alors, les spécialistes de l'hébreu, il y a un débat entre les linguistes. Moi, je ne suis pas un linguiste, je dirais, de la langue hébraïque. Il y en a qui disent que même c'est que 213.
D'accord.
Alors, mais encore une fois, ces 213 ou ces 300 mots ont été à l'origine de plusieurs milliers de mots.
C'est ça, c'est qu'il en fait, il a lancé le mouvement.
Il a forgé de nouvelles racines et il a surtout, je dirais, inventé une méthode pour créer ces nouveaux mots. Et donc, ces termes qui ont été forgés, ils ont servi à créer une langue, mais au sens où la langue est vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une langue vivante? Ça veut dire que, à cette époque-là, lorsque on lisait un journal ou une revue, au fond, on lisait et on interprétait chaque mot. Ça ne se lisait pas de façon aussi courante, puisque ce n'était pas une langue parlée. Et donc, ce que lui a essayé de faire, c'est justement de trouver ce qu'on pourrait appeler en français des néologismes, si vous voulez.
C'est-à-dire?
Et donc, ces néologismes, c'était de transformer des racines existantes. Par exemple, je donne un petit exemple. Il a inventé puisque dans ce journal, dans cette revue qui était financée par Frumkin, son épouse tenait la rubrique de mode. Et donc, il a inventé le mot mode en hébreu.
D'accord.
Qui se dit... Alors, mode, ça vient de mode. Mode, c'est often, mm-hmm. et donc c'est devenu ofna. Et aujourd'hui, tout le monde en hébreu dit ofna, c'est la mode. Et donc, il a inventé, par exemple, le mot montre. Donc, une heure, ça existait, sha'a, mm-hmm. mais la montre, c'est devenu sha'on. Mm-hmm. Voilà, il y a bien d'autres exemples. Mais même, par exemple alors c'est très curieux, parce qu'il a inventé, par exemple, un mot comme la bicyclette. Alors, c'est assez curieux, parce qu'il a pris le même mot que pour ofna, qui est ofen, mm-hmm. et il y a la bicyclette, c'est deux cycles, parce que, je veux dire, un mode, c'est un cycle, et donc, ofna, c'est des saisons, hein, et la mode, c'est saisonnier, c'est, mm-hmm. donc, c'est le renouvellement des saisons, en fait, la mode, hein, puisqu'on change de mode à chaque fois, et donc, la bicyclette, c'est devenu ofenheim, mm-hmm. c'est-à-dire deux cycles. Il y a bien d'autres exemples comme celui-là. Par exemple, il y a le mot parapluie. Bon, on n'a pas besoin toute
non.
l'année en Israël. Mais il y avait un mot, par exemple, pour dire la pluie. On disait... Curieusement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en hébreu, et notamment dans l'hébreu biblique et l'hébreu talmudique, il y a énormément de mots pour désigner la pluie, parce que chaque pluie a un autre, a un nom. Il y a la pluie, la première pluie, il y a la dernière pluie, il y a la pluie du matin, il y a la... Et donc, il y avait un des termes utilisés sur la pluie en général, c'était matar. Mm-hmm. Donc, matar, c'est une averse. Et donc, il a décliné ce mot, et c'est devenu, en hébreu, mitria. Mm-hmm. Voilà, il y a d'autres exemples. Ce qui est intéressant, c'est, par exemple, dans les néologismes, c'est comment désigner des objets qui n'existaient pas à l'époque de
Absolument,
la Bible.
Oui.
Alors, à l'époque, il y avait déjà, à la fin des années... À la fin du 19e siècle, les années 90, il y avait une ligne de train entre Tel Aviv, enfin à l'époque c'était pas Tel Aviv, c'était Jaffa, mmh. Yafo, et Jérusalem. D'ailleurs, il va toujours à la même vitesse.
Ça
n'a
pas changé.
Ça n'a pas changé.
C'est les traditions, c'est important.
Voilà. Et donc, il a fallu inventer le mot train. Et donc, rechiva, c'est-à-dire monter à cheval, c'était par exemple irkov al sous. Mm-hmm. Donc on dit monter à cheval, c'est rechev. Rechev, ça veut dire véhicule. Et donc il a utilisé ce mot qui voulait dire qu'on peut utiliser même pour un cheval ou pour une bicyclette, parce qu'on dit irkov al ofanaim, et on peut dire irkov al sous, c'est-à-dire mm-hmm. monter à cheval, monter à bicyclette. Et donc on peut dire aussi monter dans un véhicule, rechev, c'est-à-dire une auto. Mm-hmm. Et donc le train, c'est rakevet.
D'accord.
Donc il a pris au fond les mêmes. La même racine, il l'a déclinée pour la transformer en une façon de décliner la langue. C'est ça qui finalement a été la principale, le principal apport de Ben Yehuda, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est l'homme qui est à l'origine de la renaissance de la langue hébraïque, c'est qu'il a apporté cette méthode relativement facile de décliner la langue. Alors évidemment, par exemple, il y avait un mot pour... lorsque la guerre de 14 éclate, mm-hmm. par exemple, il n'y avait pas de mot pour dire soldat.
Ah, c'est...
et donc, il y avait armée, mm-hmm. et puis finalement... Et il y a un mot dans la Bible, on dit Ish Chayl. D'ailleurs, c'est dans la prière même du vendredi soir, mm-hmm. on dit Eshet Chayl. Et donc, il a utilisé le mot de Ish Chayl pour transformer en Chayal.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, il y a bien même, par exemple, un revolver. Alors, il a trouvé une source dans la Bible pour dire le mot revolver qui se dit Egdar, et qui, dans la Bible, est une pierre précieuse. Et donc, tous ces changements qu'il a apportés dans la langue hébraïque n'ont pas été toujours, bien acceptés par ses contemporains, et notamment certains des grands, des grands auteurs, des grands écrivains de la littérature hébraïque moderne, les grands poètes, par exemple Bialik, Tchernychovski ou même Agnon, étaient assez critiques sur le travail de Ben Yehuda en disant, au fond, tous les changements qu'il a proposés sont pas très, disons, académiques, mm-hmm. ou la façon dont il a fait ses déclinaisons, il les trouvait parfois un peu faciles. Je donne un autre exemple, par exemple un orchestre. Alors, il y avait le mot « les amers » qui mmh. veut dire « chanter ».« Zemer », c'est « chanter ». Et donc, il a décliné ça pour dire un orchestre « tizmoret ». Donc toute cette façon de décliner la langue, je pense que ce petit, cette méthode relativement facile, mm-hmm. c'est cela qui fait de Ben Yehuda, au fond, l'inventeur de la, je dirais, de la langue hébraïque moderne. Et puis, autre chose, c'est que le premier volume de son dictionnaire, espèce de thésaurus plutôt de la langue hébraïque moderne, qui est sorti après 15 ans de travail, malgré mm-hmm. tout, 1910, si je ne me trompe pas, ce travail, il l'a effectué pendant des années, en faisant un travail qui allait au-delà de son travail dans le comité de la langue hébraïque. Donc, en fait, quand on consulte le dictionnaire de Ben Yehuda, c'est un dictionnaire qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus abouti que les propositions de mots, dont une grande partie n'ont pas été adoptées.
C'est-à-dire qu'en fait, il créait des mots, il les mettait dans son dictionnaire, mais ensuite, ils n'étaient pas forcément approuvés par la commission. Voilà. Il fallait que le mot soit approuvé par la commission pour qu'il entre dans le langage...
Alors, il fallait d'abord que le mot soit... créé et adopté par le comité, et ensuite qu'il soit accepté dans l'usage public.
D'accord, ok. Il y avait deux barrières.
Et curieusement...
Il y a des choses qui ont été acceptées, d'autres bizarrement
abandonnées. Et c'est encore vrai aujourd'hui, parce que l'Académie de la Lachon Ivrit, ce qu'on appelle ici l'Académie de la langue hébraïque, propose régulièrement, tous les ans, des mots pour toutes sortes d'objets nouveaux qu'on connaît, et certains arrivent à passer, je dirais, dans la langue courante, et d'autres pas, parce que l'usage public fait que... nous sommes comme tous aujourd'hui sous l'influence de la culture, je dirais, anglo-saxonne. Mmh. Et donc, beaucoup de gens utilisent beaucoup de termes, je dirais, en anglais ou dans d'autres langues.
Pour quelqu'un comme moi qui arrive ici et qui apprend l'hébreu, j'ai pas l'impression que les nouveaux mots suivent la méthode de Ben Yehuda. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est beaucoup de mots anglais qui ont été pris et sans aucun travail, en fait.
Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, quelque part, qu'à l'époque de Ben Yehuda. C'était difficile pour d'autres raisons. Oui. Mais disons que pendant un certain temps, il y a eu une obstination de vouloir hébraïser, je dirais, la Palestine, d'hébraïser les gens qui vivaient sur cette terre. Mm-hmm. Et donc, cette volonté d'hébraïser, c'est là-dessus où, l'acharnement, l'obstination... de Ben Yehuda a été importante, parce que justement, lorsqu'il est devenu, on lui a proposé un moment, il a enseigné à l'Alliance, il a dit « je n'enseignerai qu'en hébreu ». Et donc, il y a eu tout un mouvement, on en reparlera dans une autre émission, mm-hmm. au cours de la deuxième alia, de vouloir imposer l'hébreu comme langue d'enseignement. Et donc, de ce point de vue-là, son acharnement a payé. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où, justement, on s'interdisait d'utiliser des mots venant d'autres langues. Donc il y avait une espèce de volonté de ne parler que l'hébreu et de un hébreu, je dirais, relativement pur. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, il y a une grande facilité à utiliser des mots en anglais pour parler de certaines choses, même si ces mots existent déjà en hébreu. Régulièrement, on propose des noms, mais ils ne sont pas toujours acceptés. L'usage public, par exemple, il y a plein de termes qu'on pourrait très bien traduire et qu'on traduit, mais ça passe ou ça passe pas. Mmh. Et ça, c'est assez curieux. Et donc, c'est le titre de la prochaine chanson, parce qu'il faut, à chaque fois qu'on propose un mot, il faut lui dire « Amen ».
Alors, on va écouter cette nouvelle chanson. Encore une petite pause musicale.
מילה שבה נמצא את כל הנשמה מילה קטנה אוהבת מילה תמה מילה שבה נמצא את כל הנשמה אמן למילים לכוונות אמן לשירים ולחלומות אמן לילדים הרכים שבגן אמן לימים הטובים של כולם אמן למילים לכוונות שוב בשלום ובינך הטובות תאיר את היום אז נשתוק ביחד את המילים בהן אותי אהבת כל הימים אז נשתוק ביחד את המילים בהן אותי אהבת כל הימים אמן למילים לכוונות אמן לשירים ולחלומות אמן לילדים
אמן לשירים ולחלומות, אמן לילדים הרכים שבגן, אמן לימים הטובים של כולם, אמן למילים, לכוונות, אמן לשירים ולחלומות, אמן לילדים הרכים שבגן, אמן לימים הטובים של כולם, אמן למילים, לכוונות, אמן לשירים.
Michael, de quoi parle cette chanson ?
Cette chanson raconte au fond que les mots, il faut leur dire amen, qu'ils soient acceptés. Alors bon, elle parle d'amour, elle parle de déclaration d'amour, etc. Mais les mots ont une importance et dans la vie des gens, mais les mots ont une importance dans la vie d'une société, dans le renouveau d'une société. Et je pense que si on fait un bilan du sionisme, il est évident que une des réussites du sionisme moderne, c'est justement ce renouveau, non seulement de la langue hébraïque, mais d'une culture hébraïque Absolument. Moderne au sens large. C'est pas seulement la littérature, c'est aussi l'art, la peinture, la sculpture, l'architecture. Et donc, la renaissance de l'hébreu a été, je dirais, un des piliers de cette renaissance. Et on peut pas envisager aujourd'hui de renaissance du sionisme moderne. Aujourd'hui, c'est absolument impossible de penser comme pouvait le penser à l'époque Herzl, qu'on aurait pu avoir un État juif avec des citoyens parlant allemand ou parlant yiddish ou parlant une autre langue, l'anglais, je ne sais pas. Même si la société israélienne d'aujourd'hui est une société ouverte et que la langue hébraïque a énormément évolué et qu'elle n'a pas beaucoup de rapport avec celle que parlait Ben Yehuda, et que si on entendait aujourd'hui Ben Yehuda parler avec son fils, je ne suis pas sûr que l'Israélien moyen comprendrait de quoi il parle. Mais il a apporté ce renouveau, cette capacité justement d'une langue, et c'est important, je veux dire, dans l'histoire d'une culture, je dirais d'un peuple, justement cette capacité à se renouveler, cette capacité à trouver de nouveaux trésors dans une langue qui existe depuis plus de 3000 ans et dont on connaît à la fois la richesse de l'hébreu biblique, évidemment, mais aussi aujourd'hui il y a une vraie richesse de l'hébreu moderne. Et on sait aujourd'hui qu'il y a de très grands écrivains hébraïques, très bien écrivains israéliens, on pourrait dire aujourd'hui, c'est plus facile de dire ça comme ça, qui ont utilisé finalement ce que Ben Yehuda a fait et qui aujourd'hui modifient aussi la langue. Il y a des mots qui sont inventés. Aujourd'hui, il y a un argot israélien. L'argot est secret comme dans toutes les autres langues, dans certains milieux, à la fois la pègre d'un côté, l'armée de l'autre, le monde du travail.
Chacun accepte les
voilà, mots. Voilà, chacun. Donc on a aujourd'hui une langue qui vit. Et je dirais même qui est non seulement qui vit, mais qui est extrêmement qui est dans un bouillonnement permanent avec énormément de changements. C'est une langue extrêmement dynamique qui est capable d'évoluer. Les gens sont capables de parler très vite, d'inventer des métaphores assez incroyables et de jouer, de faire des jeux de mots. Vous voyez le calembour, enfin toutes sortes de. Vous voyez, il y a des choses assez curieuses qu'on connaît, par exemple en français, le verlan ou les contrepétries, ça existe aussi en hébreu. Et ça, ça montre que c'est devenu une langue vivante, c'est grâce à ce travail de Ben Yehuda qui a été, je dirais, sur plusieurs niveaux, si on essaie de faire un bilan un petit peu. Premièrement, il y a eu ce travail au niveau de l'éducation, et ça n'est pas rien d'élever des enfants uniquement dans une langue qui n'est pas parlée autour. C'est quelque chose d'assez peut-être traumatisant pour les enfants, mais qui malgré tout a prouvé que c'était possible. Et donc après d'utiliser cette langue dans l'enseignement, et ça a été possible parce que des écoles se sont créées à l'époque de Ben Yehuda, qui était la première école hébraïque moderne. Donc on a commencé à utiliser que de l'hébreu. Donc on a parlé ivrite be ivrite. C'est-à-dire, c'est une expression qui a été utilisée à l'époque de Ben Yehuda, qui disait non seulement il faut savoir l'hébreu, mais il faut parler l'hébreu en hébreu. C'est un peu, je dirais, paradoxal de dire ça, mais il ne s'agit pas seulement de parler l'hébreu, ou de savoir lire l'hébreu, comme beaucoup de gens. Vous savez, en diaspora, il y a beaucoup de gens qui lisent l'hébreu parfaitement, Et j'ai une expérience comme ça dans la vie, d'arriver un jour dans une école juive, quelque part en diaspora, avec une enseignante qui enseignait l'hébreu aux enfants. Mm-hmm. Et donc, en sortant de la classe, je lui dis, mais c'était très intéressant, tout ça. Elle me dit, mais je ne comprends pas l'hébreu. Oh. Ah, je lui dis, mais comment vous faites? Elle me dit, mais ce sont des phrases que j'ai apprises par cœur. Et donc, elle était capable d'enseigner l'hébreu sans parler l'hébreu.
C'est incroyable.
Et donc, ça, c'est possible. Et ce que, justement, Ben Yehuda voulait faire, c'est à rendre à la fois l'hébreu aux Israéliens, aux futurs Israéliens, c'est-à-dire à en faire une langue avec laquelle ils pensent, ils vivent, ils rêvent, ils mangent, ils font toutes choses qui font partie de la vie quotidienne. L'autre aspect, c'est évidemment la création de ces comités de langue hébraïque et de ces journaux et de toutes ces revues et de cette vie culturelle qui s'est créée bien avant l'État d'Israël. Vraiment la littérature hébraïque moderne, les grands poètes, les grands, certains grands textes qui sont utilisés aujourd'hui dans des chansons qu'on a entendues et qui sont apprises dans les jardins d'enfants et dans les écoles, font partie de ce patrimoine culturel qui a été rédigé ou écrit justement à la période de Ben Yehuda, au début du XXe siècle.
Alors, comment ensuite s'est passée la transition? Qui a poursuivi le travail de Ben Yehuda? Comment ça s'est passé?
Alors, curieusement, Ben Yehuda a été non pas... Alors, évidemment, le comité de la langue hébraïque a continué à exister. Mm-hmm. On a continué à rédiger le dictionnaire, on a continué à proposer des mots. Mais lorsque Ben Yehuda est mort, 1922, donc c'était au lendemain de la Première Guerre mondiale et l'arrivée du mandat britannique, il y avait déjà, on était déjà à l'époque de la troisième Alia, et donc il y avait déjà plusieurs centaines de milliers de gens, je dirais, une société qui parlait l'hébreu comme langue courante.
D'accord.
Et donc petit à petit, on a ce travail s'est fait, je dirais, de façon presque naturelle. Il y avait déjà des journaux, il y avait déjà une presse qui était une presse non pas seulement d'intellectuels, mais une presse quotidienne avec des faits divers et toutes sortes des annonces. Et je pense que lorsque Ben Yehuda est mort, l'hébreu était déjà parfaitement installé. Là, je dirais le moment où vraiment ça s'est joué, si on peut dire, c'est dans les 10 premières années, enfin, je dirais de 1903-4 jusqu'à 1914.
D'accord.
C'est là où vraiment il y a une vraie... Je dirais même, on a appelé ça la guerre des langues. Mm-hmm. Non, Ben Yehuda était déjà un peu âgé, mais il y a eu une vraie guerre des langues qui a été menée par les enseignants des écoles et qui justement ont voulu imposer un système éducatif dans lequel l'hébreu était la langue d'enseignement, alors que évidemment à l'époque on avait déjà créé le Technion et que évidemment les chercheurs du Technion disaient on peut pas faire des études scientifiques en hébreu, on n'a pas les termes, il faut utiliser l'allemand ou l'anglais. Et donc, il y a eu cette volonté de s'obstiner à parler l'hébreu malgré tout, même si, évidemment, il fallait connaître d'autres langues, etc., mais à imposer l'hébreu comme langue vernaculaire, comme langue parlée. Mm-hmm. Je pense que lorsque Ben Yehuda est mort, on peut dire que la guerre était déjà gagnée, d'une certaine façon.
Absolument.
Alors, l'idée de Ben Yehuda de créer des nouveaux mots à partir de racines, et notamment de racines hébraïques de la Bible, mais aussi de l'araméen, mais aussi de l'arabe. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été l'originalité, je dirais, de Ben Yehuda, parce que la plupart des intellectuels qui étaient en Europe, c'est Maskilim dont on a parlé au début, ils n'ont pas voulu utiliser l'arabe, par exemple. Alors que Ben Yehuda a dit, nous sommes dans l'Orient, et donc l'arabe fait partie des langues qui sont autour de nous. Et donc, souvent, l'arabe utilise des mots qui viennent de l'hébreu, et lui dit, pourquoi ne pas aussi aller dans l'autre sens et utiliser un certain nombre de mots qui viennent de l'arabe. Donc, il y a aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, beaucoup de mots qui sont proches de l'arabe, ou qui proviennent, ou qui ont une source ou une racine commune avec l'hébreu et l'arabe. Donc ça, ce sont des choses. Et puis, il y a d'autres langues qui existaient au Proche-Orient, c'était le persan, d'autres langues, et donc il a pu s'en inspirer. Évidemment, comme dans tout travail de linguiste, il y a une part d'investissement personnel. Donc Ben Yehuda avait cette personnalité, cette façon peut-être de ne pas transiger, que d'autres n'ont pas eu. Et son travail, je dirais, a été poursuivi par plusieurs grands écrivains. Pour moi, deux grands écrivains qui ont marqué la littérature hébraïque et qui étaient, pas dire des contemporains, mais enfin qui ont vécu déjà, qui vivaient déjà à l'époque où Ben Yehuda était vivant, c'est Agnon et Bialik.
D'accord. Bialik, même si c'est beaucoup opposé à Ben Yehuda.
C'est opposé parce que Bialik était un de ces intellectuels, justement, et que lui ne voulait pas trop changer la langue hébraïque d'origine. Et donc, il s'opposait à ce qu'on appelle ces chidushim, c'est-à-dire ces renouvellements de la langue, ces modernisations, ce qu'il appelait.
Il était d'accord pour créer de nouveaux mots, mais pas pour changer les anciens, c'est ça ?
Et donc, il s'est souvent opposé à la proposition de mots qui a été faite par Ben Yehuda, mais il a fait aussi un travail extrêmement important sur la langue. On en reparlera, peut-être qu'on fera une émission sur Bialik. Et Agnon, parce que Agnon était quelqu'un d'extrêmement religieux, et Agnon a su adapter notamment la langue du Talmud dans l'hébreu moderne.
D'accord.
Ce que Ben Yehuda n'a pas fait.
D'accord.
Et donc Agnon était un des, je dirais, des anti-Ben Yehuda, presque militants, je dirais, qui s'est beaucoup opposé au dictionnaire de Ben Yehuda parce que justement, il voyait dans ce... Donc je dirais, pour Agnon, Ben Yehuda avait une tendance à déjudaïser un peu l'hébreu.
Ah bon ?
Oui,
de quelle manière ?
C'est encore une fois. Parce que Ben Yehuda s'intéressait uniquement à la langue. C'est-à-dire, il prenait la racine et donc il essayait de la décliner en fonction des langues européennes, des langues de la région, etc. Pour Agnon, il fallait utiliser le patrimoine juif, c'est-à-dire toute la pensée juive du Moyen-Âge, les Pirkei Avot, le Talmud. Et donc, il voulait en fait que cette langue évolue d'une autre façon et qu'elle soit plus juive d'une certaine façon. Et Agnon était quelqu'un de religieux qui a, lui, dans ses textes, dans sa littérature, dans les livres magnifiques qu'il a écrits, arrive à trouver justement cette langue à la fois moderne, mais où arrive à exprimer, si vous voulez, des sentiments modernes, des histoires d'amour, des histoires de jalousie, des histoires de, qui se passent entre personnes, si vous voulez, et de les écrire avec des mots qui viennent aussi bien de l'hébreu moderne que de l'hébreu, de toute l'histoire de l'hébreu. Alors, pour lui, Ben Yehuda a fait les choses de façon un peu trop radicale. Il a instauré une espèce de coupure entre... Et ça a été un reproche de beaucoup, d'une façon générale, aux sionistes. C'est-à-dire que pour beaucoup, on disait, les sionistes, au fond, ils sautent de la Bible à l'époque moderne, et puis toute la vie du peuple juif en diaspora, ils n'en tiennent pas compte, parce que justement, ça ne correspond pas à l'idéal sioniste. Bon, c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu schématique, mais malgré tout, quand on regarde ce qu'a été le travail de Ben Yehuda, c'est un travail en profondeur sur... le renouvellement d'une langue, et c'est exceptionnel.
Absolument.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, même si on sait
on
que...
On peut critiquer.
Voilà, on peut critiquer, mais il reste quand même les 16 volumes du dictionnaire. Et c'est un énorme travail qui a été fait par un homme acharné, obstiné, qui ne dormait très peu, et qui, dès 6 heures du matin, était à sa table et écrivait ce dictionnaire.
Merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs de Radio TAF. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille un livre qui s'appelle « L'Hébreu, 3000 ans d'histoire » de Mireille Hadass Lebel aux éditions Albin Michel. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour parler encore d'Israël et du sionisme. Léhi Traot.
Bye bye.